Parisot, la patronne du MEDEF, a salué ce geste. En revanche, la gauche et les syndicats déplorent qu'un tel discours soit réservé à une assemblée de grands patrons. Autre grand chantier économique, la commission sur les freins de la croissance. Elle s'est installée aujourd'hui à l'Élysée. Elle est présidée par Jacques Attali, un ancien proche de François Mitterrand. Jacques Attali qui s'est défendu ce matin d'être une caution pour Nicolas Sarkozy et sa politique d'ouverture. Il sera tout à l'heure l'invité d'Alain Passerelle dans le journal de 13h. Fusionner ou rester seul, Gérard Mestrallet, PDG du groupe Suez, est préparé à tout, dit-il. Nous sommes préparés aux deux hypothèses, a-t-il déclaré. Il a aussi dévoilé les résultats du groupe, un bénéfice net de 2 milliards d'euros environ au premier semestre. En retrait par rapport à l'an dernier, la décision sur la fusion entre Suez et GDF devrait intervenir d'ici fin septembre. L'Union européenne tirera les leçons de la crise financière qui a fait faire le yo-yo à la bourse il y a quelques semaines. Déclaration ce matin de José Manuel Barroso. Le président de la Commission veut améliorer la transparence et mieux protéger consommateurs et investisseurs. Autre projet de l'Union, étendre à l'Europe le système d'alerte enlèvement d'enfants. C'est le projet de Franco Frattini, commissaire européen à la sécurité. C'était en avril dernier, à l'université de Virginia Tech, Cho Seung-hui, un étudiant, avait tué 33 personnes sur le campus. Eh bien, un rapport sorti aujourd'hui aux États-Unis met en cause l'université elle-même. Les administrateurs auraient dû donner l'alarme plus tôt, selon ce rapport. Et l'université aurait dû aussi mieux prendre en charge Cho Seung-hui, dont on connaissait les troubles mentaux. En Afghanistan, un chef taliban a été tué tout à l'heure dans le sud du pays. Il s'agissait d'un responsable militaire au sein d'un gouvernement taliban renversé en 2001. Par ailleurs, en attendant la journée, la libération des 7 otages sud-coréens toujours aux mains des talibans. 13 ont déjà été relâchés à la suite d'un accord entre Séoul et les ravisseurs. Coup de filet dans la mafia calabraise, la police italienne a arrêté ce matin des dizaines de suspects, principalement à San Luca dans le sud, et l'opération est toujours en cours. Ces personnes seraient peut-être impliquées dans le massacre de 6 Italiens il y a 15 jours. C'était à Duisbourg en Allemagne. Les autorités privilégient pour l'heure la piste d'un règlement de compte entre clans rivaux. Des recherches sont en cours en France, au large de Dieppe, pour retrouver l'équipage d'un voilier. Le navire s'est échoué sur la plage hier soir sans ses passagers qui avaient quitté Dieppe en début d'après-midi. La SNSM a déjà cherché toute la nuit. Selon la préfecture, il y a peu d'espoir qu'on retrouve cet équipage vivant. Et puis les courses, voici la combinaison des 8 chevaux les plus joués du Quintet Plus de cet après-midi qui se déroulera sur l'hippodrome de Vincennes. Le 6, le 18, le 17, le 19, le 3, le 16, le 13 et le 10.
Parti socialiste, y a-t-il encore un pilote dans l'avion au moment où s'ouvre à La Rochelle l'université d'été du PS? Qu'en est-il de son avenir entre défaite au présidentiel et guerre de clans? Vos questions, vos réactions dès à présent sur franceinter.com ou à partir de 17h au 01 45 24 7000.
Le téléphone sonne. Philippe Lefebvre, ce soir à 19h20.
France Inter, la différence.
Midi 5 sur France Inter, l'heure de votre rendez-vous quotidien avec Éric Lange, ça vous dérange?
Merci Marion, et aujourd'hui la question que nous avons posée aux auditeurs de ça vous dérange sur le site internet de France Inter, c'est: devons-nous tous avoir notre bac? Eh bien vous répondez non à 77,8%, presque 80% d'entre vous disent non, c'est pas la peine d'avoir le bac aujourd'hui, donc ami Rocal, et allons-y.
On est loin de 80% à un niveau bac. Eux en concluent qu'il faut rabaisser l'ambition à 60-50%, et moi je considère qu'il faut garder cette ambition de 80% et parcourir le chemin qui nous emmène de la situation actuelle à cette ambition.
Ça vous dérange? 01 45 24 7000 ou sur franceinter.com.
Derrière cette question, devons-nous tous avoir le bac? Bien sûr, nous mettons le bac aujourd'hui sur la sellette avec Jean-Robert Pitt, qui est président de la Sorbonne. Jean-Robert Pitt, bonjour, merci d'être avec nous. Vous publiez un brûlot, on peut dire, un essai vigoureux, très bien. Stop à l'arnaque du bac. Avec nous aussi dans le studio, Thierry Régat, pardon, qui est membre du bureau national du SNES, le syndicat national
des enseignements.
Un syndicat important,
le premier syndicat du second degré, largement majoritaire auprès des collègues.
Alors, Jean-Robert Pitt, je commence avec vous. Pourquoi vous vous énervez aujourd'hui? Pourquoi sortir ce livre maintenant? D'abord, est-ce que vous sortez d'un devoir de réserve? Vous êtes de l'ééducation nationale, président de la Sorbonne.
Oui, je suis président de l'université Paris-Sorbonne, qui est une grande université, 25 000 étudiants.
Mais vous avez le droit comme ça de...
Oui, je suis élu. Je suis pas un fonctionnaire d'autorité. Je suis pas nommé par le gouvernement. Je suis pas recteur d'académie. Si j'étais recteur de l'académie, je me tairais parce que c'est le ministre qui parle et donc je dois être un recteur et son relais, mais en tant que président d'université, je suis élu, et je suis élu d'une communauté universitaire qui souffre énormément de la situation actuelle, parce que le bac tel qu'il est aujourd'hui, et qui est un bac passoire, un gros trou, malheureusement c'est nous qui, enfin ce sont les jeunes d'abord qui en payent les conséquences les plus graves, et nous université juste après ou en même temps, puisque nous sommes, le bac étant le premier grade de l'enseignement supérieur, nous sommes obligés de par la loi depuis Napoléon, et rien n'a changé, d'accueillir tout étudiant bachelier à l'université, ce qui n'est pas le cas des autres formations de l'enseignement supérieur que je vous rappelle, classe préparatoire aux grandes écoles, IUT, qui sont dans les universités mais avec un statut particulier, BTS, Sciences Po, Dauphine, quelques écoles d'ingénieurs qui eux ont le droit de faire leur marché et qui prennent les 35 à 40% meilleurs élèves des lycées qui en général terminent avec un bac avec mention bien ou très bien. Ceux-là, il n'y a pas de problème, ils sont pris dans ces formations sélectives, et les autres, c'est la voiture balai, sans orientation, sans sélection bien sûr, et sans orientation, et donc ils vont vers l'échec à coup sûr de 50 à 70%. Mon université, 70% de taux d'échec en première année.
Alors, il y a une chose dont vous parlez qui semble avoir été la goutte d'eau, c'est le bac 2006, après les manifestations du CEP, contre le CPE. Vous dites dans votre livre, on a raté plus d'un mois de classe.
Les
lycéens de terminale ont raté un mois et demi de classe. Et quand on a vu les résultats du bac tomber, c'était un record, 81,9% de réussite. Alors je vous cite, d'où votre conclusion, il suffit de ne pas terminer les programmes pour obtenir de meilleurs résultats.
C'est ça la réalité. Et cette année 2007 où il n'y a pas eu de manifestation du CPE, les chiffres ont encore augmenté. Donc de toute façon, ça augmente tous les ans. Je pense qu'il serait plus honnête de dire que 100% d'une classe d'âge ou 100% des élèves de terminale ont le baccalauréat.
Alors je vais donner la parole à la défense maintenant. Thierry, regarde. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre? Non, mais pour reprendre l'exemple de l'année du CPE, c'est vrai que c'est assez étonnant quand même.
Donc effectivement, il y a eu des manifestations pendant un mois et demi, c'est vrai, mais d'une part, tous les lycées n'ont pas été fermés pendant un mois et demi. J'aurais rappelé que la formation au baccalauréat, c'est une formation qui dure sur plusieurs années, et que c'est vrai qu'une perturbation sur l'année de terminale a certainement des conséquences, mais également est quand même une petite perturbation sur l'ensemble de la formation. Et puis, je voudrais rappeler qu'aussi que à la fin du conflit CPE, il y a quand même une prise en main à la fois des élèves par eux-mêmes et des enseignants dans les établissements pour essayer de pallier les difficultés nées de cette mobilisation en termes de savoir et de compétences
et
une espèce de bachotage, mais et pourquoi pas, et donc nous, ça nous a pas tellement surpris, hein. Les sujets d'examen étaient préparés avant le conflit. Les collègues corrigent toujours à peu près de la même façon. Et globalement, ce taux de réussite à 1% de plus que d'habitude, il est pas très surprenant. Sur ce 80% quand même.
Alors revenons sur l'histoire des fameux 80%, parce que tout est là finalement dans ce débat, c'est de dire à un moment, il y a 20 ou 30 ans, 80% d'une classe d'âge doit avoir le bac. Alors d'ailleurs là, il y a quelque chose à souligner, c'est que il y a peut-être une ambiguïté entre avoir le bac et avoir le niveau bac. Qu'est-ce qui a été dit exactement?
Chevènement avait dit le 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat. Actuellement, on en est à 60 et quelques pourcents, puis ça va progresser encore, et pourquoi pas? Moi, je suis pas contre du moment que ce bac ait de la valeur. Si ce bac sanctionne ou vérifie un véritable niveau de culture générale, et en particulier d'expression écrite et orale, oui. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas, et c'est de moins en moins le cas. Moi, je regrette, on n'aime pas, et le ministre de l'Éducation nationale ne veut pas qu'on dise que le niveau baisse. Il augmente dans certains domaines. C'est vrai que nos jeunes sont mieux capables de travailler avec un ordinateur que nous ne le sommes. Et puis bon, et voilà, c'est très bien. Mais par ailleurs, ils font une faute d'orthographe par mot, une faute de syntaxe grave par ligne, et ils sont incapables d'exprimer une idée un petit peu, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, heureusement, mais une idée un peu générale et un peu complexe. Et ça, c'est très grave, et en particulier pour ceux qui viennent de milieux défavorisés, qui sont plombés dans la vie à cause de ce mauvais niveau.
Alors, d'une part, la proportion de bac de bacheliers n'augmente plus depuis une bonne dizaine d'années. Hein. Ce 62-63% est un palier, et on n'arrive pas à le franchir. Hein. Donc, il y a réellement un blocage ici à ce niveau-là. Et d'autre part, en fait, on s'aperçoit que quand on regarde l'histoire du bac, que ce sont justement C'est là justement l'apparition de nouveaux bacs, je pense aux bacs technologiques, je pense aux bacs professionnels, qui ont permis à la fois de démocratiser le système et puis de faire arriver de nouveaux jeunes à ce niveau-là. Et c'est vrai que le bac professionnel, sa création en 85, a permis d'avoir un sixième de bachelier en plus. Et c'est réellement dans ce sens-là qu'il faut travailler, c'est-à-dire finalement offrir plus de possibilités aux jeunes, pas tellement pour avoir le bac, le problème il n'est pas là, mais pour avoir un niveau de qualification qui leur permet réellement de s'insérer dans la vie, à la fois active et dans la société. Et à mon sens, le baccalauréat professionnel est un très bon exemple, même si parfois il est mal utilisé en termes de poursuite d'études. Le bac technologique est aussi un exemple extraordinaire, puisque c'est quand même un des bacs qui permet la poursuite d'études professionnelles à bac plus 2, avec finalement, c'est pas les mentions bien et très bien qui s'inscrivent en BTS, monsieur, hein, c'est réellement des bacheliers technologiques. Je les ai dans mes classes, qui ont le bac, j'allais dire, normalement, et ce bac plus 2 leur permet également l'insertion professionnelle avec des niveaux de salaire qui sont extrêmement intéressants. Et donc, j'aurais tendance à dire, faisons davantage de bacs pour ouvrir à plus de jeunes ces possibilités de formation, parce que aujourd'hui, et c'est particulièrement vrai en Île-de-France, les recrutements, ils vont se faire à bac plus 2, bac plus 3, et c'est pas en bloquant les jeunes au niveau du bac qu'on va réussir à les insérer correctement dans la vie.
Sur l'histoire du bac technologique, vous êtes d'accord?
Je vois du petit lait, parce que je crois que, et là on ne peut qu'être d'accord, le bac pro et le bac technologique sont des inventions formidables, peu importe que ça s'appelle bac ou pas, ça donne un niveau de qualification, ça permet aux gens éventuellement d'entrer dans l'enseignement supérieur, dans ces BTS et ces IUT. Vous exagérez en disant qu'il n'y a pas de mention. Vous avez quand même plein de BTS et plein d'IUT pour lesquels ils demandent la mention, et plein de BTS et d'IUT dans lesquels on préfère prendre des bacs généraux de bonne qualité sur dossier, parce que c'est sélectif, que les bacs.
Je suis d'accord pour les IUT, mais ça c'est le problème des universitaires.
Oui, mais c'est les articles 33, c'est un peu particulier. Enfin, en tout cas, tout ça, ce qui est formidable, c'est que ça permet à des jeunes d'avoir un vrai niveau de qualification, souvent d'être en alternance, et de se caser dans la vie avec des bons niveaux de rémunération, et donc pas de faire des aigris. Donc nous fabriquons des aigris, hélas.
Le bac technologique, on est d'accord. En revanche,
je voudrais quand même faire une remarque. Ouais. Il est quand même assez déplorable que le ministre, lors de sa conférence de presse de rentrée, oublie complètement la voie technologique.
Il
n'en a pas parlé du tout. Il a parlé de la voie générale, il a parlé de la voie professionnelle, il n'a pas parlé de la voie technologique. Il oublie un tiers des bacheliers. C'est pour nous quasiment une faute professionnelle.
On lui dira, monsieur le ministre, on vous aura cédé. Alors, revenons sur cette histoire de bac général et de ce, je ne sais pas si c'est un mythe, si c'est une réalité, qu'est-ce qui se passe, est-ce que le niveau baisse réellement, est-ce qu'on ne sait pas écrire quand on a le bac. Je voudrais accueillir Laurence au téléphone. Laurence, bonjour.
Oui, bonjour, je vous écoute attentivement.
Bienvenue dans l'émission. Vous êtes prof, vous, hein,
Je suis prof d'espagnol, oui, depuis un peu plus de 20 ans.
Et alors, vous me dites dans un mail, les épreuves écrites du bac sont d'une facilité déconcertante.
Absolument, on constate ça depuis en particulier 2-3 ans. On nous demande, nous professeurs, de préparer nos élèves à des épreuves qui sont relativement difficiles, hein, compréhension d'un texte, savoir bien rédiger, etc. Et puis finalement, on nous demande par ailleurs au moment du bac d'être très tolérant, de ne pas compter certaines fautes. Et les élèves eux-mêmes sont déconcertés. Moi, j'ai vu des élèves qui manifestement, en corrigeant les copies, étaient des élèves qui avaient bossé toute l'année vraiment honnêtement, qui avaient appris des choses, qui voulaient ressortir des de phrases un petit peu riches, etc., mais qui étaient visiblement déconcertés par la facilité du sujet et qui ont eu des notes qui, je suis certaine, ne correspondaient pas du tout au travail qu'ils ont fourni toute l'année. Voilà, donc je trouve ça, si vous voulez, je trouve qu'aujourd'hui, tel que je le ressens moi, hein, je parle pas au nom de tous mes collègues, mais je trouve qu'on n'est pas honnête. Moi, j'ai pas l'impression d'être honnête avec mes élèves. Je les prépare, et j'essaie de les motiver au mieux, je les prépare à aborder des choses un petit peu difficiles. Hein. Et puis eux-mêmes...
Il y a une mobilette derrière, oui.
C'est à l'extérieur. Eux-mêmes viennent me voir, ils me disent, enfin, comment ça se fait? Vous avez bossé comme ça pour tout ça pour ça. C'est exactement la situation dont une élève me l'a dit il y a quelques mois. Et voilà, donc moi, j'ai pas l'impression d'être honnête. Et j'ai des exigences de professeur. Je veux que mes élèves aient un discours tout à fait correct qui puisse réutiliser ensuite dans la vie professionnelle. Voilà.
D'accord. Merci Laurence. Vous me permettez d'aborder un point essentiel dans toute cette discussion. Et on va en parler tout de suite avec nos invités, mais après Nora Jones sur France Inter. C'est Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'entends des choses absolument incroyables. On ferait pression sur les profs, on donnerait des ordres pour monter les notes, on inventerait, comme le dit Jean-Robert Pic dans son livre, des histoires de barèmes différents pour pouvoir grimper artificiellement, et des gens qui ont des lycéens qui ont 5 ou 6 de moyenne dans une matière pendant l'année se retrouvent avec des résultats spectaculaires au bac, des 15, des 16, des 17. Est-ce que tout cela est-il vrai? On en reparle avec vous juste après Nora Jones.
You got a famous last name, but you're not to blame. Oh, baby, I see you for who you are. One time Apple Queen, and one time Tramp, and an old time movie star. Shell picker of the pickiest kind, but you always find the ones to keep. And in or out of bed, you keep your head wide open, 'cause you don't only dream when you sleep.
Eric Lange, ça vous dérange? 01 45 24 7000 ou sur franceinter.com.
Alors on a attendu 1h30 pour avoir les résultats. Et là, ça y est, je viens de les voir. Et je l'ai!
Eh oui, on en dit du mal de ce bac, on n'arrête pas de râler dessus, mais tout, qui n'a pas vu ces lycéens et qui n'a pas vécu ce moment, je l'ai, maman, ça y est. Donc ça marche toujours. On parlera tout à l'heure d'ailleurs du côté psychologique.
Oui, ça peut travailler les marchands de champagne et les marchands de mobilettes.
Non, mais c'est étonnant, il y a presque un côté passage rituel, il faut son bac, c'est assez bizarre, c'est bon, la nouvelle tribu. Revenons sur cette histoire de pression sur les profs, je voudrais accueillir Eric qui est professeur aussi. Eric, bonjour. Eric, est-ce que Eric est là?
Oui.
Oui. Allô. Bonjour, bienvenue dans l'émission.
Oui, bonjour à tous.
Rapidement, je suis très étonné par votre mail. Vous avez eu un contrat d'objectif dans votre qui vous a été donné par votre recteur d'académie, c'est ça?
Oui, enfin indirectement, puisqu'il a été signé entre notre proviseur, donc notre chef d'établissement, et le recteur de notre académie, oui.
Alors,
donc, vraisemblablement, ça a concerné tous les proviseurs de l'académie.
Mais c'est étonnant, on vous donne des objectifs précis.
Voilà, bon. Alors des objectifs à atteindre pour 2010. Donc j'ai le document sous les yeux, je vais donner un cas précis qui est celui donc du baccalauréat, puisqu'on a des objectifs qui concernent le taux de redoublement en seconde par exemple, qui devra baisser, l'accès en première L et l'orientation en première S, et donc les résultats de la série STG au bac, donc bac technologique. donc qui était de 76% a priori pour notre académie en juin 2006 et qui devront être de 80% en 2010.
Donc on vous donne des chiffres précis. Je vois dans votre mail, quand vous parlez du redoublement, on vous dit précisément le taux de redoublement de seconde doit passer de 11% à 9%. Voilà, c'est comme ça.
C'est ce qui figure sur le contrat d'objectif, oui.
Et vous devez remplir ce contrat? Qu'est-ce qui se passe si vous dites non?
Virer. Ouais, c'est une question. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que les dés sont pipés. J'abonde tout à fait dans le sens de l'interlocutrice que vous aviez avant, qui était Laurence, je crois.
Oui.
Parce que moi, j'enseigne l'anglais, mes élèves ont souffert des mêmes problèmes, finalement. C'est-à-dire qu'en simplifiant les épreuves, les meilleurs ont des notes qui sont réduites par rapport à ceux qui étaient dits moyens ou faibles, je mets le tout entre guillemets. Mm-hmm. Et donc, si on nous annonce dès maintenant 80% de réussite pour 2010, est-ce qu'il faut s'en rapprocher ou est-ce qu'il faut remplir ce taux? Auquel cas, en commission, dans les jurys de bac, on nous amènerait à noter différemment, si vous voyez ce que je veux dire.
Tout à fait. Merci Eric d'avoir aiguillé le débat, de nous avoir donné cet exemple. Je me tourne vers le SNES. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai cette histoire? C'est quand même incroyable.
Ouais, c'est effectivement quelque chose qui apparaît depuis un an ou deux. C'est vrai que... les rectorats veulent se mettre à la gestion managériale des
écoles, enfin des résultats.
Des résultats, et ils mettent une espèce de processus plus ou moins qualité, comme ça, avec des contrats d'objectifs qui sont en train de faire signer dans les établissements. Nous, on est farouchement opposés à ce type de démarche. On incite les collègues à ne pas rentrer dans ce type de démarche, parce que c'est effectivement pas la bonne solution. Le problème est quels moyens on met pour mieux faire réussir les jeunes. Et quand je parle de moyens, c'est pas simplement des espèces trébuchantes, c'est aussi peut-être d'autres pédagogies, peut-être d'autres approches, peut-être une meilleure prise en compte des difficultés. Mais pointer des objectifs comme ça à 5 ans, ça nous paraît pas raisonnable et extrêmement dangereux.
Moi, ça ressemble à la planification soviétique. J'ai le souvenir d'avoir vu il y a très longtemps un film qui s'appelait La Prime, où dans une entreprise soviétique qui essayait de tricher avec le parti, ils affichaient des objectifs volontairement bas, puis évidemment ils les dépassaient facilement pour toucher une prime plus importante. Bah, c'est à peu près ça. Là, on affiche des objectifs et on va baisser le niveau pour respecter ces objectifs. Ce qui est totalement absurde, puisque par ailleurs, donc, on baisse l'exigence sur les sujets du bac, ça vient d'être rappelé. Par ailleurs, il y a des commissions d'harmonisation qui permettent de baisser, d'augmenter très facilement les notes. Par ailleurs, il y a des différences importantes d'une académie à l'autre, mais qui vont pas dans le sens d'une amélioration du niveau, ce baccalauréat. Donc, c'est pas le taux de réussite, pour moi, n'a aucun intérêt. Même chez nous, dans l'enseignement supérieur, il y a un moment où le ministère voulait nous évaluer en fonction du taux de réussite aux examens. Donc, nous, c'est 70% de taux d'échec. Je suis pas très fier. Mais nous évaluer là-dessus n'a pas de sens. Il faut des objectifs qualitatifs et non pas quantitatifs. Ça n'a strictement aucun sens, un chiffre de ce genre.
Vous dites d'ailleurs dans votre livre, l'histoire de le niveau du bac baisse, c'est une très vieille histoire.
Ouais.
On le dit depuis longtemps. Alors,
je pense qu'on dit depuis Napoléon, ça doit se dire.
Est-ce vrai?
Enfin, à l'époque, ça concernait quelques dizaines, centaines.
Le niveau baisse depuis Aristote. Hein. Donc, oui, voilà, si on regarde bien quel était le niveau de la civilisation grecque, c'est vrai qu'on doit être très
objectivement, sur un certain nombre de sujets, je pense que les jeunes ont plus de connaissances sur un certain nombre de sujets et il y a les médias, etc. C'est parfois sûrement assez superficiel. Là où ils ont quand même réellement baissé, nous on le voit à l'université, moi je suis à l'université j'enseigne depuis 74, donc ça fait plus de 30 ans, je vois bien, c'est dans le niveau de conceptualisation, le niveau d'expression écrite et orale, où il y a une très très nette baisse. Et nos collègues qui enseignent, je prends une discipline qui est chez nous à Paris-Sorbonne, qui est la philosophie. Donc nos collègues qui enseignent la philosophie sont effondrés de ce qu'ils lisent dans des copies de philo de première année, alors que ce sont des gens qui précisément sont théoriquement ceux qui ont le mieux réussi en philo en terminale. Et les collègues qui enseignent en secondaire en philo, ont l'impression vraiment de ne plus faire leur métier, parce que en France on a une particularité dont on est très fier. On fait pas de l'histoire de la philosophie dans le secondaire ou en terminale, on fait de la philosophie. On apprend aux élèves à philosopher. Le problème c'est qu'ils enfilent des perles et ils enfoncent des portes ouvertes. Et qu'on est là dans des banalités effrayantes et malheureusement. Parce que je donne quand même la moyenne au bac.
Il n'y a pas un complot quelque part pour dire on va baisser le niveau.
Enfin, j'ai l'impression que tout le monde participe, la droite, la gauche, le ministère, les collègues, les familles, les jeunes.
On est tous les alliés objectifs.
Évidemment.
Thierry Gabonnet,
pas du tout. Je pense pas qu'il y a un complot pour baisser le niveau. Au contraire, moi, ce que je constate, c'est que dans les lycées, vous avez des enseignants qui travaillent avec des élèves, qui forment les élèves pendant 3-4 années, et que malgré tout, ça donne des résultats. Alors c'est vrai qu'il y a des difficultés. C'est vrai que le niveau en orthographe, peut-être qu'il est un peu plus bas qu'il y a quelques années où c'était beaucoup plus travaillé. C'est vrai, mais on travaille d'autres choses et moi,
Sauf chez les enfants de bourgeois, peut-être.
Le système est devenu, semble-t-il, complètement inégalitaire.
Et encore, j'en suis pas complètement sûr, mais en tout cas, les bacheliers que j'accueille moi dans mes classes de BTS, j'ai pas l'impression qu'ils soient d'un niveau fondamentalement plus bas qu'il y a une dizaine d'années. Le problème ne se situe réellement pas comme ça. Le problème, fondamentalement, c'est de savoir comment on fait pour accueillir plus de jeunes dans les formations supérieures avec de bonnes chances de réussite. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut poser la question. S'il y a des jeunes qui sont en difficulté, ben on travaille avec eux de façon à essayer de pallier ces difficultés et on s'en sortira pas autrement parce que l'objectif de 80% de bacheliers, je sais pas s'il est juste, mais ce que je sais, c'est que l'objectif de 50% de diplômés du supérieur, ça c'est un objectif qui est absolument nécessaire et il faut qu'on trouve ensemble les moyens d'y parvenir.
Alors, je cale juste rapidement Ève au téléphone qui vient nous contredire un petit peu. Ève, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, Ève. Vous êtes professeur de physique.
Oui.
Et vous dites non, pas du tout, les épreuves sont de plus en plus difficiles.
Ben, moi, je constate, en tout cas personnellement, que, bon, ça fait pas 50 ans que j'enseigne en lycée, mais enfin, que les épreuves de sciences physiques et de mathématiques actuelles me paraissent plus difficiles que celles que j'ai eues moi quand j'étais étudiante, quand j'étais élève.
C'est tout à fait contradictoire avec ce que nous venons de dire.
Tout à fait. Je pense que c'est dû à quelque chose qui est qu'on ne se base pas sur les mêmes critères. C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance toujours à se baser sur ce que nous, on appelait les bases de la physique à l'époque où nous, on apprenait. En mathématiques, c'est encore plus vrai puisqu'il y a eu des réformes quand même importantes des mathématiques. Mais finalement, les bases, ce qui sont maintenant les bases, ce qui est nécessaire pour un jeune actuellement à connaître en physique, ne sont pas les mêmes que celles que nous avions, nous, à l'époque.
Et, c'est plus complexe aujourd'hui.
Voilà, donc les professeurs peuvent avoir l'impression qu'on n'enseigne plus les bases, alors qu'en fait, on enseigne d'autres bases. Et je pense que c'est pour ça que certains professeurs disent maintenant, les élèves n'ont plus les bases. Mais moi, j'ai tout simplement fait des épreuves pendant les surveillances de baccalauréat. J'ai regardé les épreuves de mathématiques. Je n'aurais pas pu... Enfin, j'aurais eu la moyenne en les faisant, si vous voulez. Mais enfin, j'ai quand même, après ça, fait des études. J'ai fait une classe préparatoire, une école d'ingénieur, une thèse. J'ai un bon niveau d'études. Je n'étais pas capable de faire toutes les questions de mathématiques, de l'épreuve de mathématiques actuelle.
D'accord.
Il n'est pas si facile que ça, ce bac.
Merci, Ève. Oui, il ne faut pas non plus faire trop de généralités.
Mais c'est parce que la discipline a évolué. Il y a des branches du savoir qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Ne serait-ce que l'informatique qui était balbutiante il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très sérieux. Et dans les bacs techno, on enseigne ces choses-là. Il est évident que de ce côté-là, il y a un vrai progrès. Moi, ce qui m'inquiète, c'est dans les domaines où il n'y a pas d'évolution majeure du savoir. Enfin, bon, ça progresse, bien sûr, mais il n'y a pas d'évolution majeure, et en particulier dans les humanités, dans les domaines littéraires, dans les langues, dans la littérature, en philosophie, en histoire, en géographie. Bien sûr que le savoir progresse, qu'il y a des thèses, qu'il y a des laboratoires qui font des choses merveilleuses, mais il y a quand même un socle de base de connaissances, une culture générale, qui aujourd'hui est encore plus déficiente qu'elle ne pouvait l'être auparavant, et gravement déficiente.
Je crois qu'il faut s'arrêter un moment sur le problème des langues, parce que c'est pas l'épreuve au baccalauréat qui est mise en cause, c'est vraiment les conditions de l'enseignement des langues vivantes au lycée dans ce pays, quoi. Quand on a 2 heures de langue par semaine, on ne peut pas apprendre une langue étrangère, et donc tout devient très compliqué, et on sait finalement plus quoi évaluer. Et donc il y a un vrai effort à faire sur les langues vivantes au collège et au lycée, parce que on a atteint un palier en termes de volume horaire qui est inacceptable, quoi.
C'est vrai que la France a la triste réputation d'avoir des jeunes qui ne savent pas parler anglais.
Une heure d'anglais devant une classe de 36 élèves, comment voulez-vous que l'enseignant s'en sorte?
Bien d'accord. Mais de toute façon, aussi il y a plein de pays d'Europe dans lesquels volontiers on parle anglais à la maison, ne serait-ce que pour habituer les gamins à entendre
importante de l'anglais. Vous allez aux Pays-Bas, vous allez en Allemagne, vous allez en Scandinavie, on parle assez fréquemment l'anglais à la maison, en plus de la langue maternelle, parce que ça habitue les gamins à entendre de l'anglais. Donc du coup, on peut, ils sont complètement bilingues quand ils arrivent à 18 ans. En France, il y a très peu de familles où volontairement on se dit bon, tiens, ce repas, on va le faire en anglais pour habituer les gamins à entendre de l'anglais. Ça se fait pas parce que les parents, malheureusement, ont un niveau très très faible aussi en langue. Mais là, sur le problème des langues étrangères, c'est vrai qu'on paye notre la francophonie, si je puis dire, c'est-à-dire notre
défense
notre
à tout craint de la
notre, non, puis notre sentiment de supériorité. On va pas tout, on a une tellement belle langue et tellement merveilleuse, c'est pas la peine d'apprendre les langues étrangères. Bon, ça, j'espère que ça va bouger, ça. Hein.
Retour des débats sur cette histoire de 80% d'une classe d'âge qui doit avoir le bac. Antoine Lee, notre reporter, a rencontré Julie Coudry, présidente de la Confédération étudiante. Alors elle défend l'idée de 80% de réussite au bac. Elle dit il faut garder ça. Pour elle, le problème, il est ailleurs. Il est dans la qualité du système d'orientation. Nous l'écoutons.
Ce qui est clair, c'est qu'il y a une nécessité absolue de réformer le système d'orientation qui est en faillite. Qui laisse d'un côté tous ceux qui vont pas avoir les bons contacts et les bons réseaux pour choisir la bonne orientation post-bac, et puis de l'autre ceux qui dans leur entourage familial, social, ont ces bons contacts qui vont leur donner les bonnes informations. Donc il faut un service public qui soit efficace, qui soit capable de dire à chaque jeune bachelier qu'est-ce qu'il est apte et qu'est-ce qu'il peut avoir envie de faire qui lui corresponde pour exprimer son propre talent. C'est pas un problème qu'ils soient bacheliers. C'est un problème que depuis la troisième, ils n'ont pas eu l'accompagnement nécessaire en phase avec leurs attentes pour pouvoir faire les bons choix, y réussir et après s'insérer derrière. Et c'est clair qu'aujourd'hui, en l'absence d'un système comme ça, on comprend la facilité de certains à prôner une sélection à l'entrée de la fac, mais je crois que c'est pas du tout la solution. Dans une société qui doit être demain à l'échelle du monde, une société de la connaissance, il faut augmenter le nombre d'étudiants à l'université, mais il faut les orienter, il faut se soucier de leur réussite et il faut se soucier de leur insertion une fois qu'ils sont diplômés de l'université.
Quelque part, vous rejoignez toutes ces personnes qui écrivent des livres pour critiquer justement l'intérêt du bac.
Là où on peut se rejoindre, c'est quand on dit regardons la réalité en face, on est loin de 80% à un niveau bac. Mais là où on diverge, c'est que eux en concluent qu'il faut rabaisser l'ambition à 60-50%, et moi je considère qu'il faut garder cette ambition de 80 et parcourir le chemin qui nous emmène de la situation actuelle à cette ambition.
Voilà, elle a mis un peu tous les... Alors, en l'écoutant, Julie, j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde est d'accord sur le constat. Après, que fait-on? Jean-Robert Pitt, quand elle dit, il va le baisser à 50, à 40%.
Non, je ne suis pas pour baisser à 50%, je suis pour relever le niveau du bac. Je ne suis pas pour baisser le nombre de bacheliers et pour baisser le nombre de gens dans l'enseignement supérieur, loin de là. Je pense qu'il faut relever le niveau et garder le même nombre et puis l'augmenter autant que faire se peut parce qu'on n'a pas assez de jeunes dans l'enseignement supérieur en France par rapport à plein d'autres pays de l'OCDE. Donc ça, on a un très gros effort à faire. Mais là où je tombe totalement d'accord avec Julie Coudry, sur d'autres sujets aussi d'ailleurs, mais pas sur tous quand même, mais c'est sur l'orientation. C'est évident qu'on a un très grave déficit d'orientation. Nous, dans notre université, 25 000 étudiants, j'ai 4 personnes dans mon SCUIO, service commun de l'information et de l'orientation. C'est totalement ridicule. Et dans les lycées, c'est souvent une personne à temps partiel qui fait ça plus ou moins bien, qui a plutôt une formation de psycho qu'une formation à ce qu'est l'entreprise et ce qu'est un métier. Enfin, je caricature, il y a des gens formidables aussi, mais ils sont trop peu nombreux, trop mal formés, trop peu adaptés. Donc là, aujourd'hui, je crois que c'est l'université l'été du MEDEF, c'est une chose que j'y suis passé ce matin, que j'ai dit, il faut que les entreprises, bon, et le public aussi bien sûr, mais les entreprises se préoccupent de cette orientation parce que finalement c'est elles qui y ont intérêt, enfin toute la société y a intérêt, les jeunes, les familles, mais les entreprises aussi. Il faut que cette orientation, c'est un vrai projet national. Pour moi, c'est un vrai projet qui doit unir toutes les forces vives de la société.
Je me tourne vers le SNES. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis le doigt dessus plus tôt? Pourquoi est-ce qu'on râle pas sur cette histoire?
Ça fait longtemps que le SNES intervient sur cette question-là. Hein. Nous syndiquons aussi les conseillers d'orientation psychologues qui sont dans une situation extrêmement difficile, hein, puisque c'est un remplacement pour 5 départs actuellement. Donc le problème, il est extrêmement grave en termes de personnel. Vous avez complètement raison, mais peut-être en termes d'approche aussi, parce que j'écoutais Julie, elle disait il faut orienter les jeunes. Moi, je pense pas qu'il faille orienter les jeunes. Il faut permettre à chaque jeune de trouver son chemin de réussite dans le système de formation. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. On l'oriente pas. Il s'oriente tout seul, peut-être, mais il trouve quand même son chemin de réussite. Je continue. Si je dis ça, c'est parce que on s'en sortira pas simplement avec les entreprises peuvent y participer, mais le problème n'est pas simplement de remplir des besoins soi-disant d'emploi dans des secteurs donnés avec des jeunes qui n'ont pas envie d'y aller. Donc c'est pour ça que je dis ça, il faut absolument que chaque jeune trouve son parcours de réussite.
La société a des besoins. Je prends, moi il se trouve que c'est mes sujets de recherche, les questions d'alimentation et de boissons, les métiers de bouche, l'hôtellerie, le tourisme ont d'énormes besoins actuellement en France. Il y a plein de métiers pour lesquels on trouve personne, on va chercher même des gens à l'étranger, et les jeunes veulent pas. Bon, pour des raisons variées, souvent par manque d'informations claires sur ce qu'il y a dans le métier et surtout les possibilités de promotion, parce qu'on commence parfois assez bas et assez durement, et puis on a des possibilités de s'exprimer ensuite quand on le veut. Donc, je vais prendre un exemple qui n'est pas qu'une caricature, parce que c'est un truc moi qui m'a, j'étais vraiment, c'est poignant cet exemple. C'est une fille, une étudiante, qui échoue lamentablement avec 2/20 en philo cette année. C'était en 2006, en février, au premier semestre. Donc elle vient nous voir au SCUO pour savoir ce qu'elle peut faire, etc. Et on lui demande, mais au fond, pourquoi vous êtes venu en philo? Vous avez un bac professionnel. Ah bah parce que je manquais de culture, mes amis se moquaient de moi, et j'ai pensé qu'en venant faire de la philo, j'aurais de la culture. Je trouve ça, et je me moque pas de cette fille. Voilà le défaut d'orientation de notre système. C'est-à-dire qu'on l'a laissé faire, puisque c'est ce qu'elle voulait faire, c'est pas un caprice, c'était sûrement pour elle un vrai besoin intérieur, et elle voulait s'intégrer mieux à son entourage par ça. Mais il est évident qu'elle allait à l'échec. Et on n'a pas le droit de lui dire, bah non, tu n'iras pas là. En revanche, on peut te proposer peut-être d'aller dans tel BTS, compte tenu de ce que tu as fait comme bac professionnel. On peut te proposer telle ou telle chose, mais pas en philo, puisque c'est certain que tu vas à l'échec. Et on n'a pas le droit de le faire. Alors la loi qui vient d'être votée par le Parlement au début août sur l'enseignement supérieur va obliger maintenant tout lycéen qui veut aller à l'université à rentrer dans une procédure de pré-inscription. Et donc d'aller à l'université, d'avoir un entretien, d'essayer d'avoir quelques conseils. Tant mieux, c'est un...
Il va falloir qu'il y ait quelqu'un en face, il va falloir engager
quelqu'un en face.
Parce que si vous êtes quatre à la Sorbonne, ça va être facile d'avoir rendez-vous.
Non, il faut que tous les... Moi je pense que tous mes collègues doivent s'y mettre. C'est une tâche collective et qui n'est pas... c'est pas perdre du temps. Parce que passer 15 jours au mois de février à recevoir des jeunes lycéens qui voudraient éventuellement venir s'inscrire chez nous, c'est plus intéressant que de corriger des paquets de copies auxquels on met 3/20. Parce que c'est vraiment un gâchis du métier.
Alors je voudrais accueillir Florence qui est avec nous, qui est une jeune prof. Florence, bonjour.
Bonjour.
Vous allez remettre le débat sur d'autres rails, puisqu'en fait vous êtes choquée, vous. Vous dites, il faut arrêter cette histoire de mener les élèves vers l'excellence à tout prix.
Je pense qu'effectivement, cette politique élitiste de notre système en France est en grande partie responsable des échecs. On semble se préoccuper d'une petite partie des élèves qui sont susceptibles d'obtenir des mentions et d'avoir d'excellents résultats, et au détriment de la réussite de tous. Et il me semble que les professeurs sont en grande partie responsables de cet état des choses, dans la mesure où ils ont une tendance naturelle à se reproduire. Les élites se reproduisent elles-mêmes, et je pense qu'il y a une certaine volonté, notamment dans les lycées de centre-ville, de rester entre soi. Également, cela se retrouve à l'université, puisqu'effectivement, il est bien plus agréable de parler entre soi de sujets très élevés, sans avoir à expliquer plus avant et à faire des efforts pour que tous puissent accéder à la compréhension, mais en même temps, effectivement, cela laisse sur le carreau un grand nombre d'étudiants ou d'élèves qui n'ont pas accès à ce petit cercle.
Merci Florence. Jean-Robert Pic, c'est vrai que le débat est là aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette éducation nationale? Est-ce qu'on veut un système au mérite? Est-ce qu'on veut un système avec des sélections? Ou est-ce qu'on part dans l'idée, comme nous dit Florence, qu'il faut au contraire amener une base générale à tout le monde?
Il faut une base générale à tout le monde de toute façon, parce que sinon il n'y a pas de nation. On vit pas ensemble si on n'a pas un minimum de, si on n'a pas un socle de connaissances. Mais ça c'est pas le rôle de l'université, c'est plutôt le rôle du primaire et du collège d'arriver à ça. Ensuite, la sélection elle se fait de toute façon. Et pour moi, elle se fait trop tard en France, puisqu'elle se fait majoritairement. Alors elle se fait à deux endroits. Elle se fait en terminale avec les meilleurs élèves qui vont dans les systèmes sélectifs, grandes écoles, etc. Et forcément après un poste facile. De cadre très bien payé, et elle se fait à un deuxième moment, c'est au moment de l'entrée dans la vie professionnelle pour les autres. Et là, elle est cruelle. Parce que quand on n'a pas fait de très bonnes études supérieures et quand même on traîne par la suite de rattrapage, etc., jusqu'au bout, et qu'on se retrouve au chômage à 25 ans, parce qu'on a un diplôme qui n'a aucune valeur, parce qu'on a fait une licence de, je sais pas moi, de sciences du cinéma, par exemple, je prends un exemple au hasard, qui évidemment n'offre pas de débouchés, eh bien, on est complètement aigri. Donc ça, c'est trop tard. Donc pour moi, la sélection doit se faire en permanence, mais elle doit être compensée par des passerelles, par des possibilités de reprise d'études, et souvent, moi je m'aperçois à l'université que les meilleurs étudiants que nous avons sont les étudiants entre 25 et 30 ans, qui ont déjà travaillé 3-4 ans, qui ont commencé vite à travailler pour des raisons variées, parce qu'ils y étaient obligés, parce qu'ils n'avaient plus envie de faire d'études, ou parce qu'ils étaient obligés par la vie, et puis qui reprennent à 25 ans, souvent en continuant à travailler, et alors là on a des gens d'une motivation, et qui sont des éponges, à savoir, qui écoutent, qui comprennent, qui posent des questions, qui lisent, qui sont capables de se prendre en charge. Et malheureusement, beaucoup de bacheliers, de jeunes bacheliers, ne sont pas mûrs pour se prendre en charge, perdent leur temps à l'université, vont à l'échec et nous font perdre notre temps. Parce que je peux vous assurer, pardon, juste une phrase, oui. Un jeune maître de conférence qui rentre à 30 ans, après avoir passé l'agrégation, une thèse, parlant plusieurs langues, ayant galéré, étant payé 2000 euros par mois, et qui se retrouve avec un amphithéâtre dans lequel plus de la moitié des élèves, des étudiants, ne comprennent pas un mot de ce qu'ils disent, il est effondré, complètement. Et donc du coup, il se replie sur ses chères études, et ça devient un pur esprit, complètement déconnecté des réalités. Et ça, je voudrais éviter ça aussi. On doit penser aussi aux professeurs, je pense que le SNES sera convaincu de ça, notre métier n'est pas assez considéré dans ce pays, et on considère qu'on a des devoirs, mais que nous n'avons aucun droit. Ben si, nous avons des droits, et nous avons des droits à exercer notre métier dans la dignité. Et pour moi, un maître de conférence qui fait ça, et moi je l'ai fait suffisamment, même comme prof, devant des amphis où il fallait faire du maintien de l'ordre 10 fois pendant une heure de cours, ben c'est pas digne. C'est pas digne.
Thierry Rigard, au SNES, vous avez l'impression que les profs sont des laissés pour compte dans l'histoire ? Ils ont perdu quoi, leur indépendance, leur autorité, leur prestige.
Je sais pas. Oui, peut-être. Oui, mais c'est peut-être pas si net que ça. Ce qui est clair, c'est que les conditions de travail sont de plus en plus difficiles. Mais nous, on l'analyse pas comme étant des problèmes qui viennent des élèves ou de l'attitude des élèves. C'est vraiment la nation qui met pas ce qu'il faudrait dans le système éducatif pour que les profs puissent travailler dans des conditions satisfaisantes. Et je pense que c'est particulièrement vrai au niveau des premiers cycles universitaires. Quoi.
Dites les moyens, la nation n'est pas les moyens, c'est parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est pas vraiment une question d'argent aujourd'hui ici.
Dans le secondaire, non, mais dans le supérieur, oui. On a 6500 euros en moyenne par étudiant et par an à l'université, hein, j'entends, alors qu'un lycéen coûte 8500 euros, à un élève de classe préparatoire 12000 euros. Il n'y a aucun pays dans le monde où on a un tel contraste. Paris-Sorbonne, université littéraire, 3500 euros par étudiant, ça coûte, salaire compris, alors qu'un élève de maternelle en moyenne en France coûte 4000 euros. Vous connaissez un pays dans lequel une grande université de renom mondial coûte moins cher à l'étudiant que la classe maternelle?
Sur les premiers cycles universitaires, effectivement, il y a un vrai problème de moyens si on veut que l'université puisse assumer ses missions. En même temps, moi, quand j'entends parler de sélection, ça me fait un petit peu peur. Je reprends ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a un passage qui passe par le bac entre le lycée et les formations supérieures et qu'il faut qu'on arrive à faire en sorte que ces deux mondes se parlent, quoi, et commencent à travailler ensemble. Et moi, je voudrais citer quand même un exemple qui est destiné aux bacheliers tertiaires pour effectivement pouvoir poursuivre des études à l'université, parce que quand on fait du tertiaire, on fait un petit peu de droit, on fait un petit peu d'économie, on peut avoir envie de poursuivre des études à l'université. Et donc c'est la mise en place de première année universitaire qui sont mixtes entre le lycée et l'université, où vous avez des profs de lycée et des profs d'université qui travaillent ensemble de façon à accompagner un petit groupe vers le monde universitaire. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, c'est-à-dire sur les actions ponctuelles bien définies avec un travail ensemble de façon à éviter cette rupture, cette cassure qu'est le bac, même si le bac en tant que tel, et on en parlera peut-être tout à l'heure, est nécessaire.
Ce sera la dernière question dans 5 minutes, alors on le supprime ou pas.
Je pense aussi qu'il faut ouvrir davantage de places dans les BTS et les IUT, remplir les places qui existent, c'est-à-dire redonner du sens à ces études technologiques et professionnelles, parce qu'actuellement la société ne les aime pas.
Ça fait 20-30 ans qu'on dit à tout le monde, il ne faut pas faire de technique, il faut que vous soyez tous avocats.
Le président de la République qui s'exprime beaucoup depuis qu'il a été élu, dans les 100 premiers jours, il s'est quand même pas mal exprimé sur tous les sujets. Ben, j'aimerais un jour qu'il nous fasse un grand discours sur justement les bienfaits des formations professionnalisantes et technologiques qui sont des formations d'avenir, qui sont des formations dont le pays a besoin et qui rendent les, qui permettent aux gens de s'épanouir. C'est ça qu'il faut dire aussi. C'est pas des sous-formations, c'est pas dégradant. Mais pour ça, il faut le dire et il faut essayer de changer l'opinion. Et vous avez un rôle, vous, les médias.
Au SNES, il nous a fallu 20 ans pour obtenir la création d'un BTS dans le domaine sanitaire et social. Les premières formations s'ouvrent cette année. Il nous a fallu 20 ans de militantisme pour obtenir ceci, parce que il y a des blocages de partout, quoi. Il n'y a pas de recherche dans le domaine sanitaire et social, donc on ne va pas faire d'enseignement supérieur, etc. Alors qu'on sait très bien que pour accueillir des gens, pour traiter des dossiers dans le domaine sanitaire et social, etc., il faut un très haut niveau de qualification.
Excusez-moi, c'est quoi le sanitaire et social? Qu'est-ce que je fais comme métier avec ça?
Sanitaire et social, vous travaillez aussi bien dans les hôpitaux que dans les structures mutuelles, d'assurance, etc. Dans les conseils régionaux aussi qui ont besoin de... Et on a fait une étude, il a fallu qu'on fasse une étude d'opportunité pour faire la démonstration que les emplois existaient à ce niveau-là pour que le ministère accepte d'ouvrir le dossier.
Et il a fallu 20 ans. C'est pas gagné l'histoire. On va écouter les petits papiers tout de suite sur France Inter. Après, on va essayer de conclure. On va poser la question. Donc ce bac, on l'arrête, on le transforme en autre chose, on l'enlève finalement. On voit ça ensemble dans un instant.
Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, laissez la soirée papier du bar, au mensonges.
Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir épuise papier maïs, pour réchauffer.
Un peu d'amour, papier velours, et l'esthétique, papier physique, c'est du chagrin, papier dessin, avant longtemps.
Laissez glisser, papier massé, les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent.
Machine, papier machine,
fleuré, papier doré,
fleuré, papier doré,
celui qui touche papier tu mouches,
celui qui touche papier tu mouches,
et moi c'est fou.
C'est pas brillant papier d'argent,
c'est pas brillant papier d'argent,
pas donné papier monnaie,
pas donné papier monnaie,
où l'on en meurt papier à fleur,
où l'on en meurt papier à fleur,
où on s'en fout.
Laissez brûler les papiers, papier d'Arménie ou d'Arménie, qu'un soir ils puissent papier maïs, pour échauffer. Un peu d'amour,
papier velours,
et l'esthétique,
papier musique,
et du chagrin,
papier de
sang,
avant longtemps. Glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent. Machin, machine, papier machine, au passeré, papier doré, celui qui touche, papier tu mouches, et moitié vous.
parler les petits papiers.
Messieurs, mesdemoiselles, Calou Marie-Françoise, mention assez bien. Burolla Jacqueline, mention assez bien. Duhard Nicole, mention passable. Braunschweig Joël, mention passable.
Ah, c'était le bon temps. La blouse de tableau noir. J'accueille Olivier tout de suite, il va mettre le débat là où il faut immédiatement. Olivier, bonjour. Olivier, oui, il faut courir jusqu'au standard là, et appuyer sur le bon bouton, merci. Olivier.
Bonjour.
Oui, bienvenue à l'antenne, Olivier. On va essayer de conclure rapidement. Donc, comment faire pour arranger tout ça? Faut-il supprimer le bac, Olivier?
Oui, bonjour. Effectivement, moi, quand j'entends les différentes remarques pertinentes qu'il y a pu y avoir de part et d'autre, et puis un résultat qui en gros est à 80% de réussite, finalement on fait peut-être beaucoup de choses pour pas grand chose, et est-ce qu'un contrôle continu arriverait pas au même résultat? Et moi je pensais à quelque chose, parce qu'on objecte souvent le fait de dire si on supprime le bac, on enlève un peu de stress au candidat. Moi j'ai mon fils en primaire qui a à peu près une fois tous les 15 jours un concours avec un classement dans son école, et où ils sont par deux ou par quatre en français ou en maths, et ça allie à la fois l'esprit de compétition, et puis d'un point de vue pédagogique, c'est assez génial, parce que ils doivent s'organiser ensemble.
Alors, vous n'êtes pas très politiquement correct, Olivier. Hein.
Pourquoi donc? Enfin,
l'esprit de compétition... on va en parler, justement. Merci d'être passé, Olivier. Voilà. Le contrôle continu, je pense, Jean-Robert Pitt, vous êtes pour. Du côté du SNES, vous êtes contre.
Je suis pour. Non, je suis pas contre l'idée qu'il y ait une partie même importante du baccalauréat en examen final. L'examen final est un bon stimulant. Je suis contre l'organisation de cette espèce de grand-messe du baccalauréat organisé à l'échelle nationale par les rectorats, par académie, etc., qui est très compliqué, qui coûte 200 millions d'euros, et qui fait perdre un mois d'enseignement à tous les lycées, puisqu'on arrête les cours pratiquement début juin pour préparer le baccalauréat. Donc je suis pour que le baccalauréat soit organisé dans le cadre des établissements et qu'il soit délivré comme le diplôme de fin d'études secondaires et non pas comme le premier grade de l'enseignement supérieur par les équipes pédagogiques en place, qui connaissent leurs élèves, qui connaissent... s'il y a une faiblesse momentanée de l'élève qui rate son coup alors qu'il a été bon toute l'année, on peut en tenir compte.
Fin de l'anonymat.
Fin de l'anonymat, ouais. Bien entendu. Mais évidemment, l'anonymat est un leurre. Chez nous, à l'université, les étudiants de l'UNEF ont exigé l'anonymat. On s'aperçoit que ça nuit plus aux étudiants que l'ancien système avec des copies avec nom. Personne, aucun prof digne de ce nom ne note à la tête du client. Ça n'existe pas, ça c'est impensable, ou alors c'est vraiment quelqu'un qui devrait être mis en examen. Donc, en revanche, je trouve que redonner de la responsabilité aux équipes pédagogiques des établissements qui souvent sont mal aimées par les parents, par les élèves, par la société, eh bien ce serait leur redonner une véritable dignité, je trouve, dans le système de l'éducation nationale. Thierry, donc le bac décentralisé.
Thierry Hegad, le contrôle continu, non?
Non, le contrôle continu, non, bien évidemment, mais plusieurs éléments. D'abord, bac, premier grade universitaire, il faut le maintenir, et j'aurais tendance à dire qu'il faut que les universitaires s'impliquent davantage dans le bac, et ça c'est dans le cadre du passage que je décrivais tout à l'heure du lycée vers l'université. Il faut absolument que, y compris sur le bac, on travaille davantage ensemble, et que ça soit pas un pseudo-universitaire vaguement président de jury
qui délègue,
et finalement ça fonctionne pas très bien. Il faut améliorer le fonctionnement du baccalauréat. Nous, au contraire, on propose le maintien du pilotage national sur le baccalauréat. Alors, on peut peut-être simplifier un certain nombre d'épreuves, on peut peut-être effectivement alléger un certain nombre d'évaluations, on peut peut-être rendre le système un petit peu plus fluide, mais deux points qui nous semblent fondamentaux, c'est d'une part effectivement le maintien du pilotage national, et d'autre part, l'indépendance...
Vous ne dites pas pourquoi, hein.
L'indépendance forte des jurys. C'est vrai qu'il est inacceptable que des inspecteurs interviennent sur des jurys
les fameuses pressions.
Pourquoi pilotage national, mais ne serait-ce que pour effectivement que chaque candidat soit en face du même sujet, soit corrigé avec le même barème, parce que là vous avez raison, c'est pas normal que les barèmes soient différents d'un jury à l'autre. Et puis pourquoi aussi, parce qu'il nous semble que ce baccalauréat c'est un repère quand même, c'est un repère pour les familles. Il n'est que voir les émissions de radio et de télévision au mois de juin, c'est un point fort de cette société. C'est un repère qui concerne les jeunes, et quand une société détruit les repères des jeunes, c'est qu'elle va certainement pas dans le bon sens.
On va terminer, je vais poser une autre question à tous les deux, et un examen à l'entrée des facs.
Ah bah moi je suis pour, c'est évident. C'est évident que moi je considère, puisque le baccalauréat est le premier grade universitaire, alors à ce moment-là qu'on nous le confie complètement, on va l'organiser nous à l'université. Moi je suis prêt à organiser le baccalauréat à l'université sans, à ce moment-là, sans aucun contact avec les collègues du secondaire. À ce moment-là ça devient le premier grade universitaire. Mais je suis d'accord aussi, là je caricature, je suis d'accord aussi avec l'idée qu'il faut créer des liens forts entre le secondaire et le supérieur et que là, on est à, grâce à la loi, on va pouvoir faire un peu plus d'orientation que naguère, et c'est bien prévu dans le texte de loi que ça doit se faire en accord avec les établissements secondaires. Et ça, je pense qu'on a du travail, on a du pain sur la planche. Hein.
Thierry Regade, un examen d'entrée en fac?
Non, un examen d'entrée en fac, non, il faut... Encore une fois, l'objectif est de faire en sorte que plus de jeunes puissent faire des études supérieures. Donc, examen d'entrée en fac, certainement pas, de la même façon que les BTS ou les IUT ne sont plus si sélectifs que ne sont plus si sélectifs
que ça. Parce que la sélection ne se fait pas de façon opaque aujourd'hui.
Aujourd'hui, tout bachelier qui veut rentrer en BTS peut de fait le faire. Vous avez raison, il y a des places cibles. Tout bachelier qui veut rentrer en BTS peut le faire. Donc la sélection, elle n'est pas si forte que ça.
BTS tertiaire, c'est plus difficile qu'en BTS secondaire. Hein.
Mais il faut effectivement ouvrir davantage l'université et puis surtout lui donner les moyens de résoudre ses difficultés. Et c'est pas en sélectionnant les étudiants à l'entrée à l'université que vous allez réussir à résoudre les moyens les difficultés de l'université. D'une part, parce que faire des étudiants qui de fait n'auront de place nulle part? On s'en occupe plus de cela. Le système ne les prend plus en compte.
C'est un autre sujet. Les formations en alternance, c'est très bien aussi. Hein. Travailler à ces jeunes et puis en même temps continuer à se former, c'est quelque chose de très bien. Et en France, ça se fait pas. En Allemagne, tout le monde fait ça.
Nous allons devoir terminer.
Plus difficile d'obtenir un BTS en alternance qu'en formation sous statut d'étudiant.
Nous allons devoir terminer. Si je résume, oui au développement des filières technologiques. Réhabilitons les métiers et les filières techniques et technologiques. Et puis essayons de remonter le niveau. Vous m'avez dit tout à l'heure au micro, il faut commencer quand ils sont pratiquement à la maternelle.
Commencer à la maternelle parce que pour moi, aimer ses enfants, c'est être exigeant avec eux. Et je trouve que malheureusement, toute la société en est responsable. Je n'accuse pas l'éducation nationale, le primaire ou la maternelle. On a trop baissé le niveau d'exigence, pensant que c'était être gentil avec les jeunes. Et c'est pas être gentil.
Jean-Robert Pic, merci. Votre livre Stop à l'arnaque du bac, c'est aux éditions O. Et Thierry Regade, bien sûr, du SNES, merci d'être passé nous voir.
Merci à vous.
Demain, nous nous poserons une grande question. Pourrons-nous être paresseux en 2007-2008?
La Bourse, avec le groupe Céléos, aménageur et promoteur immobilier.
Et la bourse est en hausse à la Bourse de Paris. Nous retrouvons Vincent Bezeau. Bonjour.
Bonjour Eric. Eh bien oui, le CAC 40 qui mercredi avait progressé de 0,84%, s'adjuge pour le moment 0,29% à 5535 points. L'indice de référence reste donc favorablement orienté, mais il a considérablement réduit ses gains puisqu'en milieu de matinée, il remontait au-dessus des 5600 points à la faveur d'une hausse de 1,5%. Sur les autres places européennes, la hausse n'est plus unanime. L'Euro First 80 s'octroie 0,17%, mais Francfort recule de 0,19%, moins 0,18% pour Milan, tandis que Londres avance de seulement 0,07%. Côté devise, l'euro s'établit à 1,3614, alors que l'économie américaine fera l'actualité cet après-midi avec la publication à 14h30 de la deuxième estimation du PIB des États-Unis pour le deuxième trimestre. Côté valeur, les bancaires se distinguent. Natixis s'envole ainsi de 5,89%. L'établissement bancaire a très agréable surpris la communauté financière en faisant état d'une progression de 15% de son résultat net à 1,56 milliard d'euros, un chiffre qui a sensiblement dépassé les attentes des analystes puisque d'aucuns allaient jusqu'à anticiper une contraction des bénéfices de Natixis au premier semestre. Avec une hausse de 2,01%, Crédit Agricole est également bien orienté. La Banque Verte a dévoilé au titre du deuxième trimestre un bénéfice net de 1,29 milliard d'euros en progression de seulement 0,6%. Les charges de restructuration de LCL ont semble-t-il peser sur la rentabilité de sa maison mère. Crédit Agricole soutient par ailleurs que la crise du crédit immobilier américain n'a sur lui qu'un impact limité, un discours plutôt bien perçu. Voilà, le CAC 40 progresse de 0,30% à 5536 points à la Bourse de Paris. Vincent Bezeau pour France Inter.
Et sur France Inter, il est 13h. Le journal d'Alain Passerelle, bonjour.
Bonjour.
La deuxième phase des réformes économiques, c'est Nicolas Sarkozy qui la détaillera cet après-midi à l'université d'été du MEDEF. C'est la première fois qu'un discours, c'est important, sera prononcé avec les patrons comme interlocuteur direct. Quels sont les freins qui empêchent la croissance? C'est Jacques Attali qui présidera la commission installée ce matin par le chef de l'État. Très peu d'économistes parmi les 40 participants. Jacques Attali sera l'un de nos invités. Claude Allègre qui traite François Hollande de magouilleur et de responsable de la pagaille au PS. Ambiance avant l'ouverture demain de l'université du Parti Socialiste. La fusion GDF-Suez, le patron du groupe privé Gérard Mestrallet dit plus ou moins clairement ce matin que finalement il